pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes fêtent à saccager les pions. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Gaffe les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sûr Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis soirs, de 19h à 20h30. Pour nous appeler, c'est au 07 52 40 22 48. Vous pouvez aussi nous écrire 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris ou nous écrire sur les réseaux ou par mail. Ce soir, c'est une émission enregistrée. On commence tout d'abord par parler de la construction des nouvelles prisons. Puis on va évoquer le procès de Beaumont, 5 ans après les révoltes qui a eu à la suite du meurtre d'Adama. Et enfin, on terminera par une discussion autour d'un projet autour de l'ancienne prison de Autun. Voilà, bonne écoute à vous.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Et donc là, on revient pour parler d'une manifestation qui va avoir lieu le 19 juin au Ménil-Amelot contre la construction d'un nouveau centre de rétention, donc d'une nouvelle prison pour sans-papiers, une de plus au Ménil-Amelot, et aussi pour apporter de la solidarité aux gens qui sont déjà enfermés là-bas, quoi. Et donc déjà, on voulait lier aussi ça un peu à la période actuelle, c'est-à-dire que ça fait assez longtemps qu'il y a de plus en plus de places de prison qui sont créées, que ce soit des tôles classiques ou des centres de rétention ou dans les établissements pour mineurs avec les différents types d'enfermement. Et en fait, on se disait que c'était un peu un petit moment pour discuter pendant une vingtaine de minutes là de un peu de ce truc-là, en se disant que à la fois il y a les annonces là qui sont successives depuis quelques années d'un plan de 10 000 places, puis d'un plan de 15 000 places, avec un certain nombre de places qui commencent à être déjà créées ou déjà je sais pas si c'est budgétisé, mais on commence à parler chiffres et à voir un peu les premiers sites se dessiner. Et en même temps, ces sites-là, bah, ça va être de plus en plus des prisons qui seront différentes, quoi, les unes des autres, quoi, qui seront pas juste des maisons d'arrêt, des centrales. Il y aura à la fois des quartiers de haute sécurité, massivement, hein, plus de 2500 places annoncées, et il y aura aussi des espèces de start-up tôles où il y aura des entreprises privées qui seront là pour employer des gens. Il y a aussi des CEF, donc des centres d'éducation éducatifs fermés pour mineurs qui ont été annoncés en début de quinquennat et qui commencent à être finis d'être construits. Il y a des places en centre de rétention qui ont été donc dans les prisons pour sans-papiers qui ont été rouvertes qui sont en train d'être construites, et donc on va revenir un peu là-dessus.
Ouais, juste pour dire ça c'est des places qui sont pas comptées dans leur place de prison, mais qui en fait sont construites à côté. Toutes ces places pour enfermer des mineurs ou des sans-papiers, c'est
ouais, c'est toujours cette continuité de l'enfermement et toujours enfermer plus de personnes, quoi.
Ouais. Et du coup, juste peut-être pour mettre un peu les chiffres et se rendre compte de la proportion là de ce qu'on vient de dire, c'est que du coup, il y avait un peu moins de 40 000 personnes qui étaient enfermées avant les années 90, que dès le début des années 2000, on est déjà à plus de 50 000 personnes qui sont enfermées, et aujourd'hui, on est à plus de 70 000 personnes qui sont enfermées. Eux, quand ils lancent leur plan là avec 15 000 places qui doivent être créées, quand ils disent 15 000 places, il y a une partie des places, c'est des réhabilitations de prison, comme celle de la santé qui a été refaite en dehors du quartier des semi-libertés, qui a été refaite entièrement. Donc ça concerne plusieurs milliers de places, et il y a d'autres nouvelles tôles qui sont en train d'ouvrir. C'est le cas par exemple à Tremblay, donc à côté de la tôle de Villepinte, où il y a une tôle de 700 places qui doit ouvrir bientôt, donc juste à côté d'une tôle qui avait déjà été créée en fait il y a 20 ans, en disant il y a une surpopulation pénale, parce que c'est ça l'argument qu'il y a derrière tout ça, on n'en est pas encore venu là, mais il y a une surpopulation pénale, on promet l'encellulement individuel, et donc ils avaient créé ils avaient un plan prison à l'époque, et Villepinte en fait est créé à ce moment-là. Et là, c'est un nouveau Villepinte juste à côté, pour les mêmes raisons, sachant que Villepinte est évidemment dans une situation où genre il y a plein de gens qui sont enfin où il y a pas du tout d'encellulement individuel, quoi.
C'est une des prisons les plus surpeuplées de France. Ouais.
Et c'est toujours le même discours en fait, un peu d'humaniser ces tôles soi-disant en permettant l'encellulement individuel, voilà. Et quand pour la santé, il l'avait annoncé en fait dès le départ, l'administration pénitentiaire avait calculé ces chiffres en disant il y aura plus de deux personnes plus d'une personne dans les cellules, quoi. Donc c'est calibré de cette manière-là en fait. Quand ils disent ils ouvrent le nombre de places, c'est pas un nombre de cellules, quoi. Donc enfin voilà, ils tiennent un discours sur on fait ça parce qu'en fait ce qu'on veut réellement c'est humaniser. En fait, dans la pratique, on sait très bien qu'à chaque fois ça aboutit juste à enfermer toujours encore plus de personnes, quoi.
Ouais, et juste pour dire, enfin c'est un truc qu'on a déjà dit souvent ici, mais en vrai l'encellulement individuel, c'est aussi ça amène d'autres horreurs en lien en fait avec l'enfermement, avec l'isolement. Enfin après c'est un autre truc, l'isolement, enfin la cellule individuelle en maison d'arrêt, mais je veux dire que on n'est pas non plus pour le fait qu'il y ait des, enfin vu qu'on est
il faudrait que ça soit un choix en fait.
Ouais, voilà.
C'est qu'en fait si tu as envie d'être avec quelqu'un en cellule, que tel tu puisses, mais si t'as envie d'être avec personne en cellule, bah tu peux aussi.
Ouais, parce qu'à côté, je veux dire, en fait, le vrai encellulement individuel que ça il développe à fond, c'est les centrales hyper sécuritaires, où là, par contre, tu connais l'encellulement individuel et le vrai isolement, quoi. Ça...
L'isolement.
Ouais, et du coup, donc ce que je disais, c'est qu'il y a plus de 2000 places qui sont attribuées là pour ces quartiers de haute sécurité, que du coup, il y a de plus en plus de tôles là qui vont être créées un peu partout. Il y a aussi des résistances qui se font par rapport à ça. Juste pour finir sur Tremblay, il y a au courant de mai, il y a plusieurs boîtes collabo, architectes, etc. de la banlieue parisienne qui ont été visitées, ou leurs façades, où il y a eu des tags, différents trucs qui sont passés, pour mettre en avant le fait qu'en fait ces entreprises-là font des thunes sur la construction de ces tôles-là, parce que c'est aussi tout un marché en fait, le BTP public, quoi. Enfin, à chaque fois qu'ils annoncent des grands projets à la con en général, et aussi sur les prisons, en fait, il y a des entreprises qui sont là pour faire des thunes, à la fois pour construire la prison, mais de plus en plus pour gérer par exemple l'accueil pour les parloirs, quoi, avec GEPSA, avec où c'est carrément des fois tu dois prendre ton parloir sur le site de l'entreprise privée, quoi, comme c'est le cas au Beaumet. Et juste pour dire pareil sur les Beaumet, par exemple, c'est le cas en fait d'une prison où ils sont en train de déplacer tout le monde de l'ancienne prison, où ils ont déplacé tout le monde de l'ancienne prison à la nouvelle prison, quoi. Et en fait ça s'est concrétisé par des conditions d'enfermement qui sont encore plus vénères que dans une prison qui a été réputée pour être vétuste, quoi, enfin qui était réputée pour des conditions d'enfermement vénères, quoi.
Et c'est toujours le cas, en fait, à chaque fois. Enfin, ça avait été le cas aussi à Corba, qui a ouvert en 2009, si mes souvenirs sont bons, où à l'époque, je me souviens, il y avait un prisonnier qui avait écrit en disant, mais en fait, moi, je préfère être dans la pisse et les rats plutôt d'être autant isolé. Parce qu'en fait, ces prisons-là, elles sont construites que sur un mode hyper sécuritaire d'isolement maximal. Et que faire en sorte qu'aucun prisonnier puisse se croiser, qu'il n'y ait aucun contact qui soit possible. Là, pour les baumettes, le truc le plus hallucinant parmi d'autres, hein, parce que c'est l'enfer, mais c'est on peut même pas qualifier ça de fenêtre, ces ouvertures qui sont même pas des fenêtres, mais donc en fait il y a pas d'aération envisageable. Et donc à chaque fois qu'il y a une construction d'une nouvelle prison, derrière le pseudo discours humaniste, en fait, en réalité, c'est des conditions de détention 15 fois plus dégueulasses et d'isolement encore plus fort. Et voilà, donc t'as ta douche en cellule peut-être. Mais derrière, tu vois plus personne et c'est complètement l'isolement et c'est l'enfer et c'est complètement horrible. Et donc c'est pas du tout humain et donc quand ils osent parler d'humanisation de prison, non, c'est que des tôles qui sont construites avec un seul objectif, soi-disant ce qu'ils appellent le sécuritaire, ce qui est en fait l'isolement.
Ouais, est-ce que plein de prisonniers parlent de la torture blanche, souvent ici, quoi,
Ouais, ce qui est en vrai une revendication des matons aussi, hein, qui est de dire on veut croiser le moins possible les prisonniers parce que les prisonniers sont en soi dangereux. Enfin, à partir du moment où ils sont prisonniers, ils portent une espèce d'étiquette qui dit que voilà, et du coup ils veulent éviter tous les mouvements à l'intérieur, quoi, le au maximum. Et c'est exactement ça le délire de mettre les douches en cellule, par exemple. Ça correspond pas du tout au fait qu'ils ont envie que les gens ils puissent se doucher tous les jours ou quand ils ont envie. En fait, ça correspond au fait que ça évite aux surveillants de se déplacer. Donc t'as besoin de moins de matons pour gérer une détention ou que t'as plus de matons disponibles pour être dans le répressif et intervenir en cas de révolte. Enfin, toujours ce double truc, quoi.
Et un peu sur la gestion partenariat public-privé, enfin donc ce truc de se faire de la thune et tout, en fait dans ces contrats-là, en fait ça dit aussi beaucoup de choses de ce que veut faire l'administration pénitentiaire. Et par exemple, alors j'ai plus exactement c'était quoi les chiffres en tête, mais t'avais un truc où l'entreprise qui gérait la tôle avait une amende, je crois qu'était un truc genre de 100-150 balles s'il y avait des toilettes dans une cellule qui était bouchée, pendant une semaine. Donc tu peux avoir pendant 5 jours des toilettes bouchées dans une cellule et t'avais pas d'amende. Par contre, si le projet de poursuite en haut d'un mirador, il était pété pendant plus de 2 heures, là t'avais je sais plus c'était combien les sommes, mais c'était 3000 ou 4000 balles d'amende direct. Et en fait, ça dit exactement ce pourquoi et comment ils pensent ces tôles, quoi. C'est sécuritaire et c'est tout, quoi.
Et à côté de ça, ça fait vivre tout un tas de personnes, en fait. Parce qu'il y a la phase de construction, donc il y a toutes ces entreprises, les architectes, les gestionnaires, les conseillers de je sais pas quoi, les entreprises de PTP, tous les gens qui vont être exploités pour construire ces tôles aussi. Et il y a la phase d'après, qui est la phase de gestion, quoi. Donc de plus en plus, ils externalisent, c'est-à-dire qu'ils vendent au privé des services qu'ils vont louer, quoi. Enfin, donc ça, c'est le cas de l'accueil, pas mal. C'est le cas de services de blanchisserie, de la bouffe. Très souvent, et c'est des marchés qui représentent des centaines de millions, milliers d'euros, etc., quoi. Et par exemple, c'est aussi le cas de plus en plus, c'est le cas des points d'info juridiques, par exemple, à l'intérieur en prison. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire, elle délègue à une association, bon, en vrai c'est mieux, hein, mais elle délègue à une association qu'elle paye pour aller donner faire du soutien juridique et que la personne ait accès aux droits, en fait. Ça en dit long, quoi, sur le délire, mais. Et donc, il y a quand même tout un tas d'associations qui sont à la base là pour aider les prisonniers, en tout cas c'est l'intention affichée, mais qui se retrouvent à vivre en fait peu à peu de ces subventions là, quoi, parce qu'on est dans un marché associatif qui à la fois genre maintenant c'est vraiment pensé en termes de marché et aussi genre qui se casse la gueule, c'est-à-dire il y a de moins en moins de thunes qui arrivent en dehors de l'État, tu réponds de plus en plus à des appels d'offres, ça c'est des thunes qui sont sécurisées, qui offrent de l'emploi, blablabla, de plus en plus les assos elles privilégient ce genre de trucs pour avoir des emplois salariés plutôt que du taf militant ou quoi, et du coup il y a toutes ces assos ou entreprises qui peuvent être payées pour intervenir et faire vivre aussi la prison, quoi. Et éviter qu'il y ait trop de révolte à l'intérieur, essayer de faire un peu tampon, quoi, en faisant croire, par exemple, qu'un recours gracieux, peut-être que ça pourra faire sauter un arrêté d'expulsion, etc., etc., quoi. On sait qu'en fait, ces points d'info juridiques, juste parenthèse, on sait que c'est de la merde parce que, par exemple, ils sont ouverts en semaine quand ils sont là en prison. que les trois quarts des OQTF, pas les trois quarts, mais genre beaucoup d'OQTF qui sont données en prison, elles sont données le week-end. C'est des OQTF 48 heures, que le point d'info juridique, il n'est pas ouvert, et que même, enfin, et que du coup, c'est impossible de les contester. Donc, c'est toujours une illusion du droit, quoi, qui est mise en place. Et juste pour dire que ça, c'est aussi quelque chose qui existe dans les centres de rétention, donc dans les prisons pour sans-papiers. Non, mais faut dire un peu les chiffres. Les cabinets d'avocats, là, par exemple, qui défendent la préfecture au juge des libertés et détention, donc ils sont là pour faire en sorte que les gens soient prolongés au maximum.
C'est-à-dire qu'en fait, ils font, par exemple, enfin, un truc à dire, c'est qu'ils font systématiquement appel, enfin, dans beaucoup, il me semble partout, décisions de remise, enfin, de remise en liberté, quand le juge, le JLD décide, ce qui est quand même très rare, de remettre en liberté la personne, la préf quasiment systématiquement fait appel.
Ouais, et ces gens-là, du coup, ils sont payés pour ça. Ça représente, je crois, plus de 7 millions d'euros. Et par exemple, les thunes que touche la CIMAD pour une période donnée de faire les points d'info là, juridiques dans les 7 centres de rétention qu'elle gère, c'est presque 10 millions d'euros ou 10 millions d'euros, quoi. Donc en fait, c'est des thunes de ouf. Et pour ces assos-là, malgré tout, en fait, elles sont, malgré tout, ça les met dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'État. On parle de 10 millions d'euros, quoi. Enfin. Ça couvre plus que des salaires, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'elles sont dans une situation de dépendance et donc elles vont fermer leur gueule sur tout un tas de pratiques, sur tout un tas de trucs qui se passent à l'intérieur et qu'elles s'institutionnalisent et que tout d'un coup, elles en arrivent des fois à accompagner l'État dans l'enfermement, quoi. Alors qu'il peut y avoir des gens qui se battent à l'intérieur, etc., c'est pas la question, mais qu'en elle-même, la structure, elle se retrouve à accompagner l'enfermement grâce à toutes ces thunes, quoi. Et c'est voilà, enfin c'est aussi.
Puis surtout en plus, enfin là sur ce point-là en particulier, c'est des obligations légales en fait, enfin qu'il y a d'avoir des points d'accès aux droits et tout. Et donc en fait, ils se font juste, j'ai le terme supplétif en tête parce que il est trop juridique, mais en fait, enfin c'est juste les associés en fait de ils font que remplir des missions que l'État doit faire. Et donc en fait, en tant que même association, société civile, un peu dans l'idée qu'on pourra avoir un truc cool associatif à l'intérieur de lieux de voilà, c'est d'apporter quelque chose d'autre, quelque chose de produit neuf et tout ça. Et là en fait non, le seul truc qu'ils font, c'est remplir les missions de l'État que l'État lui-même définit. Voilà. Et donc à ce moment-là, c'est pas possible d'avoir un rôle un peu contestataire ou juste, enfin ouais, un peu contestataire à l'intérieur, parce qu'en fait, ta mission, c'est déjà ce que doit faire l'État, et c'est l'État qui définit comment tu dois faire ta mission.
C'est fini. Enfin, c'est...
Mais malgré tout, ça reste une différence quand c'est la CIMAD plutôt qu'une autre association plus proche du pouvoir qui gère ces points d'info juridiques, que ce soit en tôle ou en centre de rétention, parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont être engagées, que malgré tout, c'est pas le même rapport de force qui est tenté d'être mis à l'intérieur, même si sur plein de situations, ils se retrouvent à faire le tri. Non, mais juste pour nuancer, parce que on les tacle souvent, mais en fait, quand t'es en lien avec des prisonniers en CRA, tu te rends bien compte quand même que l'ASFAM à Vincennes est encore plus ghetto que ce que peut être la CIMAD, et va hyper loin, et on parle pas de France Terre d'Asile en termes de collaboration concrète en fait avec la police pour vraiment enfermer les gens, trahir les gens, dénoncer les infos, enfin c'est-à-dire dire ah c'est telle personne qui m'a parlé de la grève de la faim pour que la personne elle soit convoquée, transférée, etc. quoi. Et donc c'est
mais c'est aussi l'État qui a construit en fait c'est enfin voilà, je veux dire la mise en marché du droit, enfin de l'accès au droit sous Sarkozy dans les centres de rétention, c'est un vrai truc qui a été fait pour détruire un pseudo-monopole qu'avait la CIMAD, mais qui faisait qu'en fait, la CIMAD, elle avait un autre rapport de force face à l'État, parce que c'était elle qui apportait ce truc-là. L'État avait l'obligation de le fournir, ils n'avaient pas moyen de le fournir, et la CIMAD pouvait dire, bah si, en fait, ok, c'est nous qui le fournissons, mais si on le fournit, on le fournit avec de telle manière, et on le fournit bien, et voilà. Et après, vu qu'ils sont foutus à mettre en concurrence, et après derrière, t'as les associations, bah, comme le groupe SOS et tout ça, où eux ont vu là des énormes... Enfin, ont juste vu l'argent, voilà, alors que la CIMAD garde un fonds humaniste.
Même
voilà.
S'ils voient les thunes aussi, hein, quoi,
mais,
clairement.
Mais, non,
quoi.
Mais bien sûr, ouais. Bien sûr qu'ils voient les thunes, mais parce que là, ça casse pas du tout le truc que tu disais tout à l'heure, qu'en fait, ils sont tenus par cet argent. Hein. Mais il reste un fonds qui est différent seulement le groupe SOS qui voit juste la thune qu'il y a à avoir derrière et puis pas de vague, quoi.
Ouais, qu'il y a une vraie logique de start-up, je sais pas quoi, enfin de nouvelle entreprise d'économie solidaire, enfin proche de des réseaux Macron, quoi, enfin, et qui du coup gère y compris ses salariés de manière manager hyper hardcore, bien qu'on sache qu'aussi à la CIMAD, enfin ça soit pas toujours
toutes les associations,
ouais, voilà, soit pas toujours hostilé, quoi.
Ouais, parce que enfin pour faire le lien du coup aussi avec ce qui, enfin comme on disait tout à l'heure, le fait qu'il y a de plus en plus de types de prisons là qui est un peu différentes qui sont construites, il y a aussi un des types là qui a annoncé justement, et c'est des prisons qu'ils appellent expérimentales. Bon, alors, le truc, le site là, qui est presque marrant, qu'ils annoncent, c'est donc innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l'emploi. En gros, c'est des tôles qui vont être complètement en lien avec des entreprises privées qui vont travailler à la réinsertion et au travail des détenus. Et en vrai, la vraie blague, c'est donc ils annoncent trois tôles comme ça expérimentales avec chacune 180 places. Donc c'est vraiment, enfin, quand même assez ridicule, mais surtout, en fait, ça en dit long. Enfin, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a des entreprises maintenant qui font du business qu'ils appellent social et solidaire, mais qui est en fait un business d'exploitation des prisonniers. On en parle souvent parce qu'il y a quand même le travail qui est quand même un travail de quasiment d'esclavage. Les prisonniers disent souvent ça. À l'intérieur où bah, t'es payé à la pièce, ce qui n'existe pas en droit du travail, tout ça, bon, il n'y a pas de droit du travail. Et en fait, t'as des entreprises qui vraiment collaborent. Et comme on dit, en fait, c'est là la grosse différence, c'est l'État, il coopte des entreprises qui sont dans ce business et qui en fait font du profit là-dessus.
Et ces tôles-là, c'était des trucs qui avaient déjà été un peu pensés et validés par un type qui s'appelait Pierre Botton il y a une dizaine d'années. Donc voilà, c'était un gars quand il est arrivé sur le truc, voilà, c'est un ancien prisonnier qui avait tous ses potes. En fait, voilà, c'est un mec qui a été condamné qui était un ancien mec à la mairie de Lyon et qui a été condamné dans du blanchiment d'argent, je ne sais plus précisément, détournement de fonds publics, en tout cas, enfin bon, voilà, des trucs comme ça. Et quand il était sorti, il avait fait tout un laïus, comme quoi il avait énormément souffert en prison et tout ça, et donc il voulait créer des meilleures prisons et plus de prisons, voilà. Et ce mec-là a été recondamné depuis pour avoir détourné l'argent de son association, voilà. Mais entre-temps, ça s'est diffusé, ce truc, voilà. Et c'est toujours ce truc de la réinsertion par le travail. Tu vas accepter. L'objectif, c'est de leur faire accepter des salaires de misère, quoi.
Ouais, bah déjà c'est un truc qu'en plus là Dupond-Moretti a ressorti récemment, c'est que voilà, sur son histoire il me semble là, des remises de peine, en fait il faudra prouver sa réinsertion, notamment avec du travail. On le dit toujours ici, en fait du travail, on sait qu'il n'y en a pas pour tout le monde, en plus à l'intérieur, enfin que c'est galère d'avoir du travail, qu'en plus ceux qui ont du travail, bon bah c'est de l'exploitation. Et surtout, donc ce qu'on disait, là il y a de plus en plus de types de tôles différentes, en fait. Donc il y a ces prisons expérimentales là qui sont en train d'être construites, ils ont annoncé trois sites. Il y a des prisons là qu'ils ont annoncé qu'ils appellent ouvertes. Genre un peu là, il y en a un exemple, je crois, qui existe en Corse, où les gens ils font du travail dans les champs. Et en fait, c'est toujours ce même truc comme le truc Respeto. C'est en fait, dans ces prisons-là, au moindre faux pas, tu retournes dans la détention en fait de base. Et à côté des 3 fois 180 places qu'ils annoncent dans les prisons expérimentales, ils annoncent 2500 places dans les prisons de haute sécurité, donc celles dont on parlait, en fait, où t'es en isolement total. Donc c'est vraiment ce truc, enfin, le fait d'avoir plusieurs types de détention, ça te permet de gérer les gens en te disant, en fait, si tu te tiens bien, bah, t'auras accès au travail et donc t'auras accès à la réinsertion, mais au premier faux pas, bah, tu retourneras, en fait, dans le truc base, et voire même si tu te révoltes, bah là, si tu fais, voilà, si tu commences à faire un truc à l'intérieur, une contestation, une révolte, bah là, t'iras en prison de haute sécurité, quoi.
En sachant que le calcul, il est totalement cynique, parce que même si tout le monde voulait rentrer dans les clous, ça marcherait pas parce qu'il y a 400 places, quoi. Mmh. Et qu'en fait, dans tous les cas, il y a une sélection sociale. Par exemple, tu parles de la prison en Corse, il y a clairement une sélection sociale, quoi. Non, mais sur qui peut y aller, parce que qui on pourra retrouver facilement, etc., etc., quoi. Enfin, il y a tout un tas de critères qui rentrent en jeu. C'est pareil pour Respecto, pour tout un tas de trucs. Enfin, c'est des trucs où, en fait, on sait très bien que, bah, c'est certaines populations, certaines personnes qui, vont pouvoir y accéder. Quoi. Et que la majorité des gens, quoi qu'il se passe, eh ben, ils n'y auront jamais accès. Et donc, ça, par contre, ça permet de tenir et dans ta tête te dire, ah vas-y, il y a l'espoir qu'il se passe des trucs mieux, quoi. C'était exactement la même carotte que les libérations annoncées pendant le premier confinement, quoi. En fait, ça a concerné très peu de monde. Dupond-Moretti l'a à nouveau confirmé récemment. Mais ça a fait se tenir. Enfin, plein de gens se sont dit, vas-y, c'est peut-être le moment d'avoir cette libération, les 2 mois, etc., pour ceux à qui restaient moins d'un an, quoi.
Et ça, c'est un truc qui donne un pouvoir de ouf. Enfin, c'est un truc qui renforce le pouvoir des matons. Là-dessus, c'est un truc où les matons vont jouer un rôle vachement important parce que c'est eux qui vont évaluer tout le temps la conduite des prisonniers et qui vont dire, ah bah lui, il se conduit mal. Enfin, c'est ce qu'on dit. En fait, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas des places pour tout le monde et tout? C'est que les détentions, elles sont gérées parce que ils foutent la pression. Enfin, il y a certains prisonniers, ils vont collaborer avec les matons parce qu'ils vont leur foutre la pression parce que je sais pas, t'es indigent. Enfin, on a parlé ici plein de fois. Enfin, bref, t'as plein de trucs qui font que les matons, ils vont avoir la possibilité de dire, toi, tu vas m'aider à faire rentrer des trucs, et toi, en fait, toi, tu vas prendre cher.
Pour ça, il y a un film qui est vachement bien, qui s'appelle Sous surveillance, et où tu t'es dans le bureau des matons qui gèrent la détention, et donc qui disent, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. Et donc, t'as tout un discours qui est assez ouf sur la réinsertion, d'expliquer, vas-y, en fait, c'est parce que tu tiens bien que tu vas te retrouver pas être à deux en cellule, de te retrouver dans le quartier porte ouverte et autres. Et en fait, tu les vois, les mecs, faire. Et tu les vois, ils se retrouvent, bon, merde, en fait, il nous manque une cellule. Et donc, ils regardent dans leur cahier pour dire, ah bah tiens, ça va être lui. Et en fait, c'est y a absolument aucun pseudo-parcours de réinsertion. On le sait, les prisonniers le disent tout le temps et tout. Mais là, tu vois vraiment les matons concrètement dans leur taf, comment ils fonctionnent. Et en fait, c'est de la répression de ouf. Et cette logique-là, en fait, c'est la même logique que le mitard. Le mitard, il permet de tenir la tôle parce que t'as la peur de te retrouver au mitard ou c'est l'enfer. Et ben là, en fait, c'est l'extension de ce même truc, mais de l'autre côté. C'est dans l'espoir d'avoir des conditions un peu meilleures, tu vas bien te comporter. Mais en fait, le truc, c'est que c'est nécessairement, ces trucs de prison porte ouverte et autres, elles ne tiennent que parce que tu peux te retrouver dans une cellule à trois. Voilà. Sinon, personne ne l'accepterait. Donc c'est toujours ce truc, carotte-bâton. Il y avait une discussion qu'on avait eue avec Paul Malo il y a longtemps qui racontait les prisons canadiennes. C'était le 16 novembre 2018, si vous voulez réécouter cette émission, où il montrait comment ça fonctionnait le système canadien. C'était vraiment ça, tu devais passer par des étapes pour prouver que tu étais quelqu'un de bien. Et
ouais, tu étais évalué en permanence.
Voilà, et petit à petit, tes conditions de détention s'amélioraient, quoi. Et là, c'est exactement la même chose. Tu es évalué en permanence, ils viennent de rajouter ça comme pouvoir aux matons, alors qu'avant c'était les SPIP qui faisaient ça normalement, et voilà.
Ouais, et d'ailleurs il a écrit un bouquin, je crois que c'est qui s'appelle Sécurité Maximale ou un truc comme ça, et qui est trouvable en librairie, où faut pas hésiter à le demander, quoi. Et du coup, pour rappel, nous, donc, on avait cette discussion là parce qu'il y a une manifestation qui est appelée donc le 19 juin, la semaine prochaine, contre la construction d'un nouveau centre de rétention au Ménil-Amelot, de 64 places. Et alors, juste avant de continuer à parler de ça, je voulais dire qu'il y avait une bonne émission de Cara Patage qui est sur la construction des nouvelles prisons. C'est la troisième émission qu'ils ont faite, et elle est disponible sur leur blog. C'est carapatage.noblog.org. Voilà. Et du coup, faut pas hésiter. Ils ont pris du temps aussi, en fait, pour détailler et pour parler plus spécifiquement de la tôle de Tremblay, quoi. Et donc, comme je disais, il y a une manifestation là au Ménil-Amelot la semaine prochaine. En fait, cette manifestation là, elle s'inscrit dans une suite de manifestations qui ont lieu un peu partout en France, enfin un peu partout. À Lyon en tout cas, à Orléans aussi, contre la construction de nouvelles tôles pour sans-papiers, quoi. La tôle de Lyon, donc qui va arriver juste à côté de l'ancienne tôle pour sans-papiers de Lyon, enfin de celle qui est toujours en cours, quoi. Et bah elle est bientôt terminée. Celle d'Orléans, c'est dans un objectif de pouvoir enfermer plus dans cet endroit-là, puisqu'il n'y avait pas assez, enfin, il n'y avait pas de lieu d'enfermement pour sans-papiers là-bas. C'est pour éviter les transferts. Toujours la même logique, là, de faire en sorte que les keufs, les matons, tout ça, ils aient le moins de contact, en fait, possible avec les gens, quoi. Et donc, Lyon, Ménil-Amelot, c'est près d'un aéroport, et il y a l'idée de pouvoir expulser plus facilement, de rationaliser, entre guillemets, quoi, leur système d'expulsion.
Ouais, ça, Ménil-Amelot, c'est, il me semble, la plus grosse prison pour sans-papiers de France, et du coup, c'est parce que vu que c'est à côté de Charles de Gaulle, il y a plein de sans-papiers, de prisonniers qui transitent par là avant leur expulsion ou après leur expulsion, quand ils y ont résisté. Et, c'est pour ça aussi que déjà, c'est un des plus gros centres, ils vont à quand l'agrandir, parce que, comme d'hab, ils veulent encore expulser plus, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que les gens, ils sont transférés, par exemple, depuis Metz. Et après, ils arrivent à Charles de Gaulle pour un avion, et là, ils refusent l'avion. Et du coup, après, ils sont transférés au Ménil-Amelot, et donc après, ils passent la fin de leur rétention loin de leurs proches, en fait. C'est ça, concrètement, ce que ça veut dire. C'est 240 places d'enfermement. Donc c'est autant de personnes qui sont enfermées. Il y a aussi, c'est aussi la seule prison pour sans-papiers pour femmes et enfants d'Île-de-France, quoi. Et
ouais, pour dire, c'est ça, enfin, par rapport à, pour faire le lien par rapport à ce qu'on disait avec les prisons et ce que tu disais là, ce qui est un peu différent avec les centres de rétention, c'est qu'en fait, bah, on en parle souvent ici, dans les centres de rétention, il y a plein de trucs, tu vois, il y a celui de Bordeaux, ils sont en train de le. Ils vont l'agrandir aussi. Il y a des centres de rétention, c'est des annexes de commissariat, en fait, ils, enfin, c'est un truc qu'ils mettent en place, enfin, ça a pris une ampleur vraiment il y a 20 ans, parce qu'on en a parlé ici, en fait, les gens avant, ils faisaient beaucoup leur peine en prison. Pour, pour défaut de papier ou ce genre de truc. Et maintenant, c'est des peines de 3 mois, mais maintenant, on dit même de 6 mois, que tu fais en centre de rétention. Et du coup, ils ont besoin de construire des vraies prisons pour sans-papiers partout. Donc, ce que tu disais. Et donc, c'est pour ça.
Ouais, là, dans les annonces du gouvernement, ils parlent de 800 places en plus depuis 2018. En 2018, déjà, avec la loi Asile-Immigration, ils avaient rouvert tout un tas de tôles pour sans-papiers. Notamment celle de Hendaye à côté de la frontière espagnole. Du coup, il y avait déjà eu des annexes qui avaient été rouvertes. Donc, il y a eu des extensions qui ont déjà eu lieu, des extensions qui sont prévues, notamment à Coquelles et à Lille. Donc, Coquelles, c'est près de Calais, c'est près de la frontière aussi. C'est là où ils enferment beaucoup de gens qui sont raflés toutes les semaines, enfin tous les jours vers Calais, et notamment beaucoup de gens qui sont expulsés dans des frontières européennes en fait, en ce moment.
Et pour rappel aux rares militants aux militants qui ne s'engagent pas sur ce genre de questions et qui auraient besoin de comprendre pourquoi c'est important s'ils n'arrivent pas à le comprendre déjà naturellement, c'est que ces CRA aussi, parfois, ils sont utilisés pour la répression politique, comme ça a été le CRA au G20, comme ça a été le cas au G20, pardon, dans le Pays Basque, là où ils ont vidé un CRA pour pouvoir prévoir ça comme étant des cellules de garde à vue. Donc, voilà, si vous en avez rien à foutre des personnes qui sont exilées et tout ça, comme personne n'arrive à se battre là-dessus, pensez juste de manière égoïste, mais et engagez-vous là-dessus.
Bah après, c'est surtout ce qu'on dit, ça. C'est qu'il y a une continuité, c'est que c'est places ça. D'enfermement pour l'État. Enfin, c'est pareil. Enfin, il y avait Jules qui était venu parler. Enfin, les centres éducatifs renforcés pour mineurs, en fait, c'est des trucs pareils où t'as des conditions soi-disant meilleures, mais au moindre faux pas, bah tac, tu retournes dans le quartier pour mineurs. Enfin, tu retournes en prison, quoi.
Ouais, et puis dans tous les cas, en fait, les Européens peuvent être enfermés dedans, oui. Et ça arrive régulièrement qu'il y ait quand même des Belges, des Italiens et tout qui soient à l'intérieur après des manifs ou dans d'autres cas, quoi. Et donc voilà, et en fait, il y a l'idée là-bas d'aller manifester, donc c'est un appel qui a été lancé notamment par le collectif Sans Papiers de Montreuil, l'Assemblée contre les centres de rétention d'Île-de-France, etc., quoi. Enfin, il y a l'idée d'aller manifester là-bas pour visibiliser un peu ce qui se passe. C'est pas pour rien qu'ils le foutent à Ménilamlot. Ménilamlot, c'est une espèce de ville-prison, quoi. Il y a une caserne de CRS, un TGI, enfin une annexe du TGI spécial juge des libertés détention pour le centre de rétention. Deux centres de rétention, donc qui forment le gros CRA là, de 240 places, plus l'annexe qu'ils vont construire, qui en fait est construite sur l'ancien CRA, l'ancien CRA 1 qui a été fermé il y a quelques années et qui est plus proche de l'aéroport, quoi. Donc c'est vraiment une espèce de...
Sachant que c'est déjà juste à côté de l'aéroport, on le dit souvent, c'est qu'en fait quand t'es enfermé là-bas, t'entends les avions qui passent au-dessus de ta tête en permanence et tu sais que le tien, enfin t'es dans l'angoisse de ton vol qui va arriver.
Ouais, c'est de la torture supplémentaire, quoi, en plus du fait de pouvoir ramener les gens plus facilement, quoi. Et du coup, en fait, c'est... On pense que c'est important ce type de manifestation parce que c'est organisé avec les collectifs, enfin avec un collectif de sans-papiers, parce que en fait c'est important d'aller à la fois apporter de la solidarité à ceux qui sont enfermés déjà maintenant, à ceux et celles, mais aussi d'aller visibiliser ce genre de villes qui sont en train de se construire en gagnant des thunes grâce à ce qu'on leur file parce qu'il y a des centres de rétention sur place, quoi. Voilà, c'est important. Faut s'opposer puisque c'est pas a priori pas les gens locaux. Vu leurs voisins, quoi, qui vont le faire, quoi. Et du coup, c'est important de s'y opposer. C'est pas pour rien non plus qu'aller au Ménilamlot. En plus du fait que ce soit proche de l'aéroport, c'est parce qu'ils ont tendance à construire loin de la ville, de la même manière que les tôles, parce que ça permet que quand il y a une révolte, il puisse pas y avoir une solidarité immédiate, parce que ça permet aussi que pendant la construction, ce soit plus difficile de la ralentir, de la bloquer, ou qu'il y ait des gens qui s'y opposent. C'est plus simple qu'en fait, c'est derrière les pistes de l'aéroport Charles de Gaulle, quoi. Clairement, enfin. Et du coup, c'est pour ça qu'on se dit, enfin, c'est pour ça, donc, il y a l'appel de se retrouver à 15h, samedi 19, à l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 1, 15h, avec un départ pour celles et ceux qui veulent, à 14h, à la gare du Nord. Donc ce sera sur sortie gare routière, et donc il y a l'idée de, voilà, d'aller manifester le plus nombreuses possible là-bas. Comme je disais, ça arrive après des manifestations à Orléans, Lyon et à Lille contre l'extension du CRA. Et donc il y a l'idée aussi qu'en fait, on puisse être un peu solidaire partout de comment ces tôles elles se construisent, quoi. Enfin, parce que voilà, enfin, résister ici, c'est aussi permettre la résistance mieux à Lyon, etc., etc., quoi. Voilà. Et du coup, on continuera d'en parler, on racontera comment ça s'est passé, et puis on essaiera aussi que des prisonniers ou des prisonnières du Ménil-Amelot puissent témoigner dans les prochains temps, quoi. On va vous passer un petit peu de musique.
Ouais, on passe un petit coup de musique.
Yeah. Shit sound crazy, hit. The butcher coming, nigga. See, the difference is, for me and y'all niggas, I really did this shit, though, so I can say what I wanna say. I do this religiously, and I don't trust fools in this industry. Mad I came through on a winning streak. That's me blasting through your car auxiliary. They want a John Lennon me, or John Kennedy. Since I've been on, I feel my adrenaline gone. They take me back to the corners I solicited on. You know the ratio, when you from the hood, the only place we know. Only 3 out of 10 of us gon' make it, though. No President Trump shit, elegant thug shit. Yeah, left on parole, getting heroin plugged in. Feelings ain't supposed to linger, I left without regrets. Numb like anesthesia, feds want me subpoenaed. For niggas chasing goals that I targeted myself. Some of my best verses, I'm just talking to myself. They won't let me live for shit I already did. Every time my ops need medics to credit his, I'm like a mirror, I show a reflection of better years. But if you break me, that's bad luck for 11 years. Every time one of us die, I shed a tear. Then look in the sky, I wonder if heaven near. That was Benny at the height of the pressure and never scared. So the bond that I built with my niggas will never tear. Only a few in this room, yeah, that's when you rare. Get $1 million deal when you used to get rid of squares. Yeah, I'ma push it to the limit. Cop the same day and got the windows tinted. Drop 200 so they really know the difference. I'm in it like a taxi, a chick wanna bag me. Push it to the limit, cop the same day and got the windows tinted. Drop 200 so they really know the difference. I'm going over the limit, we never post for pictures, motherfucker. Fly from the block, we came to remind those who forgot me. I really bagged dope in Versace, ducked indictments, then got rich, that really shocked me. Even the FBI surprised that they don't got me. They telling me I'm saying too much, but that's the thing, my shit real. And these rappers playing too much, streets taught me, take it easy, never playing too much. Could only move a quarter than 1,000 grams too much. I'm speaking as a survivor, the load getting heavy. I'm reaching back for my partners. Stuck in them ghettos that make you feel like a hostage. The ones that speak on my pockets. Can't imagine doing a quarter what I accomplished. Around 2010, trap got raided by the sheriff. Came home in 2012, tending to my marriage. Violated back in 13, broken, embarrassed. 2014, I met a plug off of merit. Took my best shot every time I connect. Stop by my driveway, look like a highway. Rent stop. You ever been getting money, then stop. Cause the pressure of getting not conflicted with hip hop. Yeah, I'ma push it to the limit. Cop the same day and got the windows tinted. Drop 200 so they really know the difference. I'm in it like a taxi, a chick wanna bag me. Push it to the limit, cop the same day and got the windows tinted. Drop 200 so they really know the difference. I'm going over the limit, we never post for pictures, motherfucker.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 dans l'émission L'Envolée. Donc pour rappel, pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, L'Envolée-FPP. Pour nous appeler toute la semaine, c'est au 07 52 40 22 48. On est aussi disponible a priori sur plein de réseaux sociaux. Enfin, pour celles et ceux qui connaissent, vous nous trouverez. Et donc là, en fait, on voulait revenir un peu sur le procès qui va y avoir lieu très bientôt sur les révoltes de Beaumont, parce que c'est vraiment comme ça que c'est en train d'être présenté, quoi, un procès des révoltes et de la manière dont les gens se sont révoltés après la mort d'Adama, donc tué par des gendarmes en 2016. Et juste pour dire, en fait, ça arrive aussi à un moment où les keufs, ils ont décidé de... Et le pouvoir, enfin, en ce moment, quoi, de faire un enjeu autour des violences sur les keufs, d'annoncer des peines de 30 ans de sûreté pour celles et ceux qui attendraient, enfin, qui essaieraient de buter un keuf, que ça rivalise de discours sécuritaires hyper vénères sur la question, avec un discours hyper victimaire de la part des keufs, en disant que c'est des victimes et qu'ils n'arrêtent pas de crever tous les deux jours, qu'il leur faut plus d'armes, plus de moyens pour pouvoir arrêter plus de gens. Parce que, évidemment, s'il y a plus de monde en taule, c'est qu'il y a plus de keufs pour arrêter plus de gens, quoi. Enfin, c'est toujours, ça va ensemble. Et donc, c'est tout ce climat-là. Et c'est dans cette période-là que va s'ouvrir ce procès-là. Et donc, en fait, c'est une période assez tendue pour que ce procès se tienne, quoi. Parce qu'on a déjà vu qu'au moment de Viry-Châtillon, qui est donc le procès de personnes qui sont accusées d'avoir jeté des cocktails Molotov sur une voiture de keufs qui gardait une caméra. Et le fait qu'il y ait des personnes qui étaient innocentées alors que l'enquête... c'est prouvé que les keufs ont fait n'importe quoi, ont mis des pressions sur des témoins, ont bidonné des... ont fait des faux PV, quoi, clairement, et ont envoyé des gens en tôle pendant plus de 4 ans.
Et là, c'est encore un très bon exemple de quand la machine police-justice se met en place pour trouver des coupables. Et le seul truc qui compte, c'est de trouver des coupables. On l'a déjà vu, on l'a vu de manière très claire pour Viry-Châtillon. Voilà. Et ça avait été le cas quelques années auparavant, aussi pour Villiers-le-Bel, où on avait fait des trucs complètement dingos, avec des témoignages anonymes rémunérés, des gens qui ont été innocentés en appel de manière complètement dingue, et qui ont eu, je pense à Mara Kanté, d'ailleurs qui était présent au rassemblement pour Djimoni à Meaux, voilà, qui a passé, je crois, près de 4 ans en prison, qui a eu sa carrière de footballeur niquée, puis innocenté à la fin, quoi. Donc là, on est vraiment dans ce type de procès qui va arriver, où on sait comment ça se passe déjà par avance, parce que toute cette machine police-justice se met en place pour trouver des coupables. Et en fait, nous, on s'en fout de savoir c'est quoi la vérité et tout ça. Nous, on sait que la seule chose qu'ils vont faire, c'est chercher les coupables, chercher à comprendre le contexte, le pourquoi du comment et tout ça. Ça, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent faire au moment d'un procès pénal, un procès d'assises, c'est trouver des coupables. Et c'est tout.
Donc ça, c'est la partie judiciaire, quoi. Parce que dans toute la partie enquête, par contre, c'est la construction du coupable, quoi. Et là, ouais, c'est le moment où tu présentes les preuves pour dire on a bien construit tout notre dossier, son identité, sa manière d'être, tout correspond au fait que c'est un coupable. Et donc on va revenir sur chacun des faits de tout ce qui a pu se passer dans la minute près, histoire de déshumaniser la personne, tout en disant que sa personnalité, évidemment, l'a amené à ça, quoi. Et donc ça, c'est tout le taf aussi d'enquête de keuf, en sachant très bien ce que ça vaut une enquête de keuf, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des preuves immédiates sur lesquelles ils peuvent tomber, ben en fait, ils trouvent leurs preuves, ils les créent, quoi.
Et l'enquête, elle est construite comme ça. Enfin, par exemple, la bande organisée, elle est construite, c'est les keufs qui construisent comme ça une bande organisée inexistante. Enfin, voilà, c'est vraiment les keufs qui le construisent. Et on verra aussi qu'il y a l'enquête, et après derrière, il y a les juges, où là, pareil, par contre, ils protègent, voilà, et principalement sur les chefs d'inculpation. Donc là, les personnes qui sont dans le box risquent la perpétuité pour tentative d'assassinat sur les forces de l'ordre, alors que, initialement, la juge d'instruction en charge du dossier considérait que c'était simplement des violences. Voilà. Donc ça veut dire que c'était correctionnalisé. Donc ça veut dire que ce qu'il risquait était beaucoup plus faible. Et voilà. Mais on va revenir un peu à ce qui s'est passé. Parce que Beaumont, c'est un peu une ville étonnante, parce que c'est de la banlieue très très lointaine. En fait, c'est plutôt, t'es plus à la campagne qu'autre chose. Et voilà. Et à l'époque, c'était la police... Enfin, quelques années auparavant, c'était la police qui gérait cet espace-là. Et en fait, il y a les gendarmes qui se sont retrouvés à récupérer... l'espace. Et là, à ce moment-là, il y a eu les rapports qui sont vachement tendus entre les habitants. Voilà. En fait, ils sont arrivés grave en mode cow-boy. Ils ont harcelé. Alors que globalement, ce que racontaient les gens, c'est que ça se passait globalement assez bien. Autant que ça peut se passer, quoi. Mais en tout cas, des jeunes du quartier racontaient que vraiment l'arrivée des gendarmes change grave la donne.
Ouais, parce que dans la logique policière, en fait, quand tu veux t'imposer dans un quartier, tu t'imposes, quoi.
C'est ça.
Maintenant, aujourd'hui, on nous parle de reconquête républicaine dans les quartiers, quoi. Mais c'est pour donner un peu l'ambiance dans laquelle sont lâchés les keufs quand ils arrivent dans un quartier, quoi. Et du coup, au moment où ça switch entre police et gendarmerie, il y a des unités qui arrivent en place, qui connaissent son père, qui n'ont aucun lien dans la ville, et qui vont juste pour bourriner, quoi.
C'est ça. Et donc ça s'est super mal passé. Voilà. Et arrive le 19 juillet 2016. Où Adama esquive un contrôle d'identité, se fait rattraper et se prend le poids de trois gendarmes sur lui. Voilà. Il meurt entre les mains de la police et il est déclaré mort vers 19h par des pompiers qui le retrouvent face contre terre. À ce moment-là, en fait, la famille, parce que Adama, il était avec un de ses frères, s'inquiète un peu de ce qui se passe. Surtout que, dans mes souvenirs, il y a un des frangins qui voit qu'il y a du sang sur un des t-shirts d'un des flics. Mais en tout cas, la famille est inquiète et va directement au commissariat, à la caserne de gendarmerie, pour s'assurer de ce qui s'est passé. À ce moment-là, on leur dit non, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. Ce qui a une importance assez ce qui est important, parce qu'en fait, c'est aussi le moment où, en vrai. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon hypothèse, c'est qu'en fait, il leur cache ce qui se passe réellement pour pouvoir ramener et commencer à prendre place dans le quartier. Voilà, donc ils vont pouvoir ramener des keufs et tout ça et être en nombre.
Mais après, au-delà de ça, enfin, c'est une stratégie de com classique de toujours éviter. Enfin, tu prends toujours l'État ou enfin, les keufs prennent toujours le maximum de temps avant de dire oui, effectivement, on a fait une merde. Parce que en fait, ils savent très bien que sinon, enfin d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Hein, sinon, ça va péter direct. En fait, plus tu mets du temps à vraiment lâcher l'info, en fait, plus tu laisses une période de flou qui, malgré tout, freine la mobilisation. Parce que là, la famille, elle attend en fait la réponse avant de dire que oui, enfin de lancer ce truc. Enfin, où les gens, enfin autour, ils attendent d'être sûrs avant de partir. Et c'est quand même aussi une stratégie, enfin très qu'on utilise même dans la communication en guerre. Hein, de quand tu fais une frappe, c'est un truc classique. Quand tu tues des civils, tu vas mettre plusieurs jours avant de dire, enfin où tu le diras pas. Mais en fait, ça fait partie de ta communication de guerre, quoi.
Ouais. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est aussi dans une optique de commencer à préparer leur version, quoi. De se mettre d'accord, etc. pour que s'il y a les premières auditions et tout, plus la personne allait déclarer mort tard, plus la procédure allait lancer tard, plus, en fait, les gendarmes là, peuvent s'organiser, quoi. Et aussi s'organiser pour contrôler le quartier, quoi. C'est-à-dire réprimer, arrêter d'autres personnes et maintenir sous pression les gens du quartier, quoi.
Et donc, c'est vers 23h30 qu'on annonce enfin à la famille. Ce qui s'est passé, on leur annonce pas ce qui s'est, enfin ils disent que c'est soi-disant un malaise, mais personne n'y croit en fait, parce que tout le monde sait très bien qu'en fait l'État, il a beau avoir aboli la peine de mort, il continue à tuer par ses flics et ses gendarmes, quoi. Et donc voilà. Mais là, donc les keufs, ils ont eu le temps d'arriver et il y a déjà 130 policiers, il y a des hélicos, ils canardent le quartier à coups de flashball, de lacrymo et de grenades de désencerclement. Et dans le quartier commence à y avoir des premiers regroupements avec des gens qui crient justice pour Adama et autres, quoi. Le lendemain, il y a le proc qui fait une annonce en disant que c'est un malaise cardiaque. Voilà, ce qu'on y croit toujours, enfin personne n'y croit. Et la famille peut toujours pas voir le corps. On est dans l'indifférence totale de la part des autorités. C'est classique, hein, mais voilà. La mère, elle refuse d'aller rencontrer la famille. Et ils vont même faire un sitting devant la mairie. Tout tranquille et tout, et ils vont tous se faire gazer, quoi.
Juste, je voulais dire, c'est marrant parce que tu sais, quand on parle à chaque fois de ces trucs-là avec le procureur et tout, là en ce moment, les flics ils sont en train de nous faire tout un foin du fait que la justice elle est pas assez à leur côté, et ce genre d'affaires prouve quand même à quel point la justice les couvre et est là pour les protéger, à quel point ils font partie, c'est juste des maillons d'une même chaîne, quoi, qui va jusqu'à l'atoll, mais enfin, c'est vraiment, ils travaillent main dans la main et tous ils font genre de se victimiser les uns les autres en disant que c'est de la faute de l'autre, mais en vrai, au quotidien, ça t'a vénère ensemble, quoi.
Et donc là, on est le lendemain, le soir, c'est le même dispositif avec autant de keufs. Voilà, il y a quelques véhicules qui crament et puis un peu de mobilier urbain, et ils arrêtent déjà 9 personnes, quoi. Le 21 juillet, donc 2 jours après, il y a l'autopsie. Ce qui est dit, c'est qu'en fait, il est mort d'une infection grave du cœur. Voilà, personne n'y croit. Il y a, on le sait aujourd'hui, depuis maintenant 4 ans, bientôt 5, énormément de batailles judiciaires autour de ces autopsies et tout. Voilà. Et là, il y a l'occupation militaire du quartier qui continue. Voilà. Et la famille, elle refuse d'appeler au calme. Et en tout, donc sur ces trois premiers soirs, il y a eu 300 balles de défense et plus de 60 grenades de désencerclement qui ont été envoyées. Et voilà, et ça continue dans le quartier, en fait. Il y a une centaine de personnes qui continuent à crier à Dama et il y a une centaine de personnes dans le quartier qui continuent à se révolter. Le vendredi 22, il y a une marche blanche et ils commencent à renforcer encore plus le dispositif. Ils augmentent, ils multiplient par deux et il y a 265 gendarmes qui sont présents. Voilà quoi. Et c'est soi-disant à ce moment-là qu'il y aurait eu des tirs, en vrai, il y a quasiment rien qui s'est passé, ce qui explique qu'à la base, les juges ont voulu considérer que c'était des simples violences. Voilà.
Ouais, c'est pour ça, c'est important de refaire ce petit historique avant de parler du procès, parce qu'en gros, quand même, c'est le truc de ouf. Il y a un mec qui a été tué par des gendarmes. Ce procès n'aura, enfin, on ne sait pas s'il aura, enfin, ouais, si
il aura peut-être ouais. lu un ouais, jour.
Peut-être lu un jour, mais voilà.
Pour
voilà.
l'instant, alors ça, c'est un autre truc, c'est que pour l'instant, les trois policiers qui se sont, qui se sont mis sur Adamel, sont toujours pas mis en accusation.
Voilà.
Ils sont témoins assistés seulement dans le procès, mais même pas mis en accusation.
Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc là, il y a des gens qui se révoltent suite à la mort de quelqu'un, il y a des tirs de, j'en sais rien, de plomb qui sont tirés, il y a des impacts, il y a personne qui est mort ou qui est, enfin, blessé gravement. Et là, on a un procès d'assises de 3 semaines. Enfin, c'est vraiment tout le truc qu'on décrit, hein. C'est comment, la justice défend la police alors que, enfin, et la défend quand elle tue. Parce que là, c'est vraiment de ça dont il est question, en fait.
Ouais, et le truc, en fait, c'est de dire que ces révoltes-là, parce que là, on va faire le procès de ces révoltes, mais ce qui fait qu'on a parlé autant de l'affaire d'Adama, c'est parce qu'on sortait du mouvement Loi Travail, ça avait commencé un peu à parler des violences policières, parce que les manifs étaient gérés de manière hyper violente depuis quelques mois, et c'est parce qu'il y a ces révoltes, en fait, à l'intérieur du quartier, là, à ce moment-là, pendant plusieurs jours, malgré la répression policière, que les médias commencent à en parler et à offrir une tribune à la famille aussi à certains moments, quoi. Tout en relayant évidemment plein de discours merdeux aussi de la part des keufs, hein, mais je veux dire, il commence à y avoir grâce à ces révoltes, et ça en fait c'est hyper important juste
et
de le dire.
Et il y a des familles il y a des gens dans le quartier qui ils organisent une conférence de presse. Et ils disent mais vous seriez pas là s'il y avait pas eu de révolte. Et c'est vrai en fait. Enfin voilà, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu, c'est une prise de parole aussi. C'est ça quoi. Et donc là on est comme d'hab. Ils donnent rarement la parole. Ils vont la donner un peu au début et après derrière va y avoir toute la communication d'État qui va se mettre en place. Et là on va pas donner la parole aux habitants du quartier qui vivent sous l'occupation policière, voilà. Et tous les soirs, c'est l'enfer, en fait. Ils coupent l'électricité publique, l'éclairage public, voilà. Il y a un circuit spécial qui est fait pour que les keufs ils puissent tourner dans le quartier, voilà. Et ça va durer de nombreuses semaines. Et ça a un double impact, c'est que déjà auprès médiatiquement auprès de du reste des gens, on montre qu'ils sont les soi-disant méchants, et tout. Mais surtout aussi à l'intérieur, en fait, du quartier, ça participe à briser un certain nombre de solidarités. Et l'objectif, c'est de faire payer. C'est clairement de faire payer ce qui s'est passé. Voilà, parce que va y avoir ces quelques jours de révolte et d'expression, parce que les gens ils continuent à crier justice pour Adama pendant ces quatre soirs et voilà. Et en parallèle de ça, donc c'est d'un côté l'intimidation policière et voilà, et puis le mépris de tous les côtés quoi.
Et en fait juste aussi c'est un message qui est envoyé aux autres quartiers pour quand il y a des morts policiers, enfin des morts tués par la police. Après en fait, c'est de dire non seulement il y a une impunité globalement judiciaire pour les keufs qui tuent quoi, ça d'accord, mais c'est aussi de dire en fait, regardez juste pour le fait qu'il y ait des médias qui s'y intéressent, donc même pas pour obtenir du fait que la justice sanctionne ces gens-là ou quoi, en fait il faut qu'il y ait des gens qui passent aux assises. En fait c'est ça le message que t'envoies. C'est ok, tu vas te révolter pour ton pote, mais il y a une partie du quartier qui va finir en tôle. Juste pour qu'en fait on puisse en parler. Enfin, et pour le coup, l'affaire Adama, elle est particulière parce qu'il y a eu une tribune médiatique pendant longtemps qui a continué après quoi. Mais il y a plein de quartiers où il y a eu des révoltes, les gens ils sont béton, et après juste plus personne n'en a rien à foutre s'il n'y a pas d'autres gens pour se révolter dans le quartier au même moment.
Enfin, c'est quand même une histoire malheureusement classique, quoi. Enfin, c'est quand même très souvent qu'il y a un mort dans un quartier tué par la police, que les gens se révoltent et que derrière, en fait, il y a des super grosses peines qui tombent sur les gens qui sont révoltés suite à ça, quoi.
Bah, c'est le cas à Villiers et autres, quoi. Et donc ça, c'est la première répression, c'est la répression des flics. Et on sait que toujours, dans un second temps, arrive la répression judiciaire. Et donc, va y avoir une répression très forte contre et des gens du quartier, et des proches d'Adama, qu'ils soient membres de la famille ou non, et tout ça. Où il y a quand même 5 proches qui ont pris jusqu'à 3 ans de prison. Au minimum, et 4 mois plus tard après les faits, enfin 4 mois plus tard après juillet, donc en octobre, y a aussi 2 membres de la famille qui sont mis en examen, et là il y a eu de nouveau des révoltes avec un bus qui est vidé et qui va être brûlé. Et là, pareil, même répression. Les bus ne vont plus jusqu'au bout du quartier. Et voilà, quoi. Et donc là, on est toujours dans le même. Excusez si vous entendez du bruit dehors. Il y a des répétitions de théâtre. Et voilà. Et donc là, il y a ce procès qui va arriver. C'est des choses dont on a assez peu entendu parler, parce qu'il y a eu assez peu aussi de solidarité, en tout cas pas suffisamment, avec un certain nombre de proches. Voilà, il y a encore des gens qui sont en détention provisoire, donc ça fait bientôt 5 ans, qui vont être jugés 5 ans après les faits, ce qui est énorme. Voilà. Donc, bah, la cour d'assises, on disait ça un peu tout à l'heure, quoi. C'est la machine à condamner, et c'est le lieu de la vengeance d'État, quoi. Et donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas chercher à comprendre c'était quoi le contexte politique de l'époque, la détresse que t'as quand t'as un de tes potes qui vient de se faire buter, ou pas pote d'ailleurs, parce que tu sais qu'en fait c'était Adama, mais que ça aurait pu être toi, en fait, parce que c'était une connerie, quoi. Enfin voilà, il voulait être certain de pouvoir fêter son anniversaire. Oui, parce que ce que on a oublié de dire, c'était que c'était le jour de ses 24 ans et que en fait il venait de faire refaire sa carte d'identité, qu'il avait pas sur lui et qu'il savait, vu les rapports qu'il avait avec la gendarmerie, que en fait il allait passer le soir au poste au lieu de pouvoir fêter son anniversaire tranquille, quoi. Et voilà. Et donc personne vous racontera cette histoire en entier. On sait déjà très bien qu'est-ce qui va se passer dans les médias bourgeois, ou qu'est-ce qui va être annoncé. Et pour nous, c'est important. Déjà, enfin nous. Perso, on s'en fout de qu'est-ce qui s'est passé ou quoi, mais ça va être le procès d'une révolte contre le harcèlement policier et le meurtre policier, donc les peines de mort de la police, quoi. Et voilà, et donc ce qu'on peut dire quand même, au vu du contexte actuel, au vu de ce qu'on sait des enquêtes, c'est que on en arrive, enfin toute cette machine, elle est dirigée pour désigner des coupables, et voilà ce que je disais tout à l'heure avec Viry, Châtillon et Villiers-le-Bel. Et là, ce qui s'est passé pour Beaumont, ça s'est passé au niveau de la chambre d'instruction, voilà, où la première juge d'instruction considère que il n'y a pas eu de tentative d'assassinat, donc ça veut dire que tu risques pas la perpète, voilà, mais que c'était simplement des violences, voilà, il y a eu quasiment pas de blessure ni rien du tout. C'était voilà. Et là, par contre, c'est là où l'institution judiciaire va protéger la police et va chercher à désigner des coupables, et des coupables avec des grosses peines, où en fait il y a une grosse bataille judiciaire entre les avocats, où ils ont condamné, ils ont pas encore condamné, mais en tout cas ils sont mis en examen pour se passer à la cour d'appel de l'instruction, puis après même à la cour de cassation, si mes souvenirs sont bons. Et donc ils sont mis en examen pour tentative d'homicide, et voilà. Il y a une solidarité qui va, enfin, en tout cas ça sera important d'être présent dans le quartier, voilà. Et donc voilà, je voulais juste vous lire un petit truc qu'on avait écrit à l'époque, parce que le procès a été décalé, donc normalement il devait avoir lieu en octobre dernier. Mais
Ouais, non, moi j'allais juste dire qu'en fait, s'ils ont fait 50 détentions provisoires, c'est parce qu'en fait, le Covid, ils ont surtout communiqué sur les libérations, mais il y a aussi des extensions de détention provisoire, quoi. Et que déjà, c'était une dinguerie, en fait, que les gens ils puissent faire 4 ans de prison en détention provisoire, mais juste 5 ans, en fait, c'est un truc de ouf, quoi.
Non, c'est une dinguerie.
Sans savoir ta peine, en fait. 5 ans à galérer, sans savoir ta peine, à te demander combien tu vas prendre, en voyant à chaque fois le contexte sécuritaire se dégrader dehors et des dingueries comme ça. Non, mais c'est une torture de ouf, quoi, enfin...
En tout cas, il faudra être présent en nombre dans ce tribunal. Parce que, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a 100 gendarmes qui se sont portés partie civile. Ouais. Et donc, ça va être rempli de keufs. Et il va y avoir un rapport de force aussi qui va s'imposer à l'intérieur du tribunal pour pas qu'il y ait que les keufs. Et donc, pour y aller, c'est la ligne H à partir de la gare du Nord. Et donc, arrêt Pontoise depuis la gare Saint-Lazare avec la ligne J à l'arrêt Pontoise. Et il y a aussi le RERC à l'arrêt Pontoise. Je voulais juste peut-être terminer avec ce qu'on avait écrit il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois, pardon, dans le numéro 52 de l'Envolée. De notre côté, peu nous importe de savoir si tel ou tel accusé a tiré à la carabine à plomb en direction des forces d'occupation. Les rares flics blessés, entre guillemets, ont eu au pire quelques égratignures, voire, paraît-il, une perte d'audition. On est quand même loin du massacre. Ce qui est sûr, c'est que la justice veut faire payer aux accusés une révolte populaire de grande ampleur. Qu'ils ont participé ou non, qu'ils aient tiré ou non, l'enjeu reste le même, en punir quelques-uns pour terroriser les autres. Donc voilà, soyons solidaires avec toutes les personnes qui seront dans le box. Je rappelle, c'est le 21 juin, lundi 21 juin, et c'est 3 semaines de procès, et c'est à Pontoise.
Ouais, donc voilà, pour celles et ceux qui sont dehors et qui sont à dispo en région parisienne. Et donc, on rappelle, il y a le 19 juin à Mesnil-Amelot dans le 77. Puis après, à partir du lundi 21 pour 2 semaines, l'appel à aller là-bas. C'est pas obligé d'y aller tous les jours. Pour 3 semaines, c'est pas obligé d'y aller tous les jours. C'est important d'essayer d'y aller pour qu'il n'y ait pas que des keufs. Parce qu'en plus, déjà que d'habitude, les keufs, ils occupent toute la place avec leur délire de Covid. Enfin, non pas que le Covid soit un délire, mais juste avec leur délire en ce moment. Toutes les places ne sont pas dispo en fait dans les salles, et donc les keufs ils vont venir en nombre. Il y aura plein d'avocats, il y aura plein de juges, il y a quand même quelques prévenus, ce qui veut dire qu'en fait la jauge de personnes possibles dans la salle, ça va pas être tant que ça, quoi. Et donc c'est important, au moins pour que les quelques personnes qui rentrent dans la salle aient un peu de rapport de force pour apporter de la solidarité aux personnes qui là sont inculpées, qu'on soit en nombre dehors, qu'il y ait du monde. Pour montrer en fait que voilà, enfin, parce que en face par contre il y a un esprit de corps, quoi. En fait, tu citais des chiffres de genre 100 130 gendarmes, 300 gendarmes mobilisés, etc. Il y en a 100 qui se mettent en partie civile, quoi. Donc c'est même plus que pour le 13e mois, enfin c'est vraiment un truc de un vrai, c'est plus qu'un esprit de crevure, là il y a un esprit d'esprit de corps, quoi. Enfin, il y a un vrai truc de on fait bloc et on est solidaire des collègues qui ont buté Adama à l'époque. Donc enfin voilà, c'est
en plus c'était la gendarmerie a produit après derrière des rapports pour dire à quel point ils avaient été traumatisés, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de gérer ce genre de truc, parce que, de fait, c'était aussi l'une des premières fois où ils avaient à gérer des révoltes populaires et urbaines. Voilà, et donc, ils ont fait tout un tintamarre à l'intérieur du corps de la gendarmerie pour dire « Oh là là, vraiment, on a vécu un truc de ouf !» et tout ça. Et tous les gars disent « On est choqués !» et tout ça. Et donc, en fait, c'est sans partie civile, c'est clairement « Oh là là, on a eu très très peur !» et voilà, parce qu'en réalité, il y a seulement une dizaine de blessés, et très légèrement blessés, quoi.
Donc, ouais, sachant qu'il y en a sûrement une partie qui se sont auto-blessés.
C'est ça.
Et moi, ça me rappelle juste l'histoire du CRS qui avait porté plainte, qui s'était constitué partie civile parce qu'il avait été traumatisé de traumatraquer quelqu'un, quoi. Et que ça l'avait mis mal, voilà. Enfin, juste pour dire un peu, c'est...
C'est ça, parce que rappelons quand même 300 balles de défense qui ont été envoyées, une soixantaine de grenades de désencerclement.
Ouais, c'est pour ça, et par rapport aussi là, tout ce que, comme tu disais, ce que disent les keufs en ce moment, que la justice les suit pas assez et tout, enfin, c'est quand même vraiment la preuve que, de toute façon, on le sait, hein, la justice, elle travaille avec la police, elle travaille sur les documents, enfin, sur le travail de la police, et sur cette base-là qu'elle enferme les gens. Mais là, la justice, elle est là, justement, pour protéger la police et pour envoyer des messages. Enfin, là-dessus, il y a vraiment, et c'est pour ça que, de toute façon, c'est quand même tout un cinéma. On est dans une période, on le dit ici, où la police, elle tue quand même, enfin, elle l'a toujours tué, mais là, pendant par exemple, les confinements, elle a tué encore plus. Et donc, il y aura, il y a aussi, de fait, il y a des révoltes qui ont éclaté à plein de moments contre, comme cette violence de la police. Et, du coup, il y a la justice qui suit, qui derrière.
Ouais, la justice qui protège aussi les matons quand il y a des morts à l'intérieur, parce que ça participe du même système de terreur, et qu'en fait, de tous ces morts policiers, quand on parle qu'Adama, il se tirait, en fait, c'est les mêmes histoires de Ziad et Bouna d'il y a très longtemps. En fait, ils tuent les gens qui s'enfuient face à eux, mais en fait, si les gens s'enfuient face à eux, c'est parce qu'ils sont violents au quotidien et qu'on peut en crever, en fait, de cette violence, quoi. Et donc, ça participe à cette terreur, et ils sont là, ils sont payés pour ça, et ils font bloc derrière ces gens qui sont souvent promus, etc. quoi. Et juste pour dire que c'est pas non plus pour rien qu'en ce moment ils mettent tout en place ce discours vachement victimaire autour de la police, parce que c'est un moment où il y a la crise sanitaire qui est passée, donc une crise économique qui risque d'arriver, qu'il y a la réforme des retraites qui est toujours dans les machins, qu'il y a la réforme du chômage, donc énormément de gens qui vont se retrouver précarisés là à partir de la rentrée et même à partir du 1er juillet. Et qu'en fait, il va y avoir de plus en plus de pauvres, de plus en plus de gens en galère, de plus de gens qui vont galérer à trouver un taf. Et qu'en fait, tout ça aussi, c'est mettre la pression sur tout le monde en général. Quand tôle on meurt, c'est faire peur sur la tôle. Que dans les quartiers, ça meurt, c'est aussi faire peur pour que dans les quartiers, ça se tienne bien, quoi. Enfin voilà, tout ça, c'est des messages envoyés à celles et ceux qui se font pas tuer, quoi.
Et avec les délits qui viennent d'être ajoutés aussi sur le fait de guetter, enfin sur les guetteurs et tout, avec des délits complètement hallucinants, quoi. Bon, en tout cas, voilà, à partir du 21 juin à Pontoise, nous on fera en sorte de relater au maximum ce procès. Et voilà. On passe un petit coup de musique.
Selective bad boys, sure. Could never be us, man. Got by in bare 9mm. Fill it up for anybody that want beef us. They're talking to social media, but we done him already. I can't even speak up, but we hit him already. I made a pussy bleed up, but ready me ready for never another steamer. Creep up when them men lean up. In the night time, no, we haven't put a beam on. Don't tell me that we ain't hearing our knees up. Only got them, my mama, the ones telling me up. Hit him in his chest, hit him in his back door. Like, if we miss, then we never coming back. Know that. Tell him to our memory, tell him to our throwback. Cause he's in my palm, beating out, can't hold that.
The man, they ain't nothing like us. I ain't even being biased. Little brother, I'm an icon. Never thought the same youth I grew up with are the same ones right now I wanna ride on. Now I'm chilling with broad day booters, electric scooters, and something in a man bag. Fuck a python, never let bygones be bygones. Can't be no grass in this gangland.
Yeah, the man them didn't want me to ride, so I put my mash in the car, said go. AB, I don't play that shit, man. We'll lift up an up block, meet for my bro. Riding. I come a long way from riding. Now my YG's them doing that sliding. Headshot setting, trying to send him to the highest.
From a young buck, I had a Lambo on a driveway, and I didn't even have a license. I must have spent about 100 reps on a case. Imagine that, it was all cause of violence. I don't play that, I ain't a newbie. Know exactly when a man try to move in bookie. Who the fuck's my man trying to pre for the review? It's minor, he's just another groupie.
Best player than a man, then missed all. Trip, are you getting up like dead boy? Pop. Man, deal with the net boys. 9mm, man, slap that and make noise. Bah. I ducked down enough men in these streets, I won't ever claim that as drillings. No. But I show you about drillings, up boy got chest shot, we did it. Selective bad boys, sure. Could never be us, man. Got by in bare 9mm. Fill it up for anybody that want beef us. They're talking to social media, but we done him already. I can't even speak up, but we hit him already. I made a pussy bleed up, but ready me ready for never another steamer. Creep up when them men lean up. In the night time, no, we haven't put a beam on. Don't tell me that we ain't hearing our knees up. Only got them, my mama, the ones telling me up. Hit him in his chest, hit him in his back door. Like, if we miss, then we never coming back. Know that. Tell him to our memory, tell him to our throwback. Cause he in my palm, beating out, can't hold that. Glide in the side, we get drops and we pull up. Time man's hood up. Sure. Don't tell no Snapchat vids on your block and no whack of that machine full up. Don't do it. I got a job that them boy they lost in their block, so I stood up. Yo, Mad Max, let's go there again. Them boy don't know no respect, so I shower in them. So I shower in them. So them boy they ain't got no power in them. I got the power, man, we like 10 or 12. We put a trust in skins, don't get a blood clot, Quev.
I'll point this thing at anybody, I ain't picky, I'ma wrap them all up like a durag. The only time I go back to back is when I hit back, then get sent to the gulag. Always been a giver, never been a taker. Ask my killie, he was dipped to Jamaica. The last 9-bar abs gave, man, came a Z short. Now I got a fling, man, at 8-bar. I can't stand them, I'm starting to annoy, man. I might check, man, like I'm chatting to a Neumann. 6 to 9 times out of 10, man, get bagged, then start singing to the boy, them. Can't be driving up Camden Road, 2 raps in a dinger when you're trying to avoid them. R.I.P. to the brothers that pass. If you touch my fam, you know I'll drown them.
Selective bad boys, sure.
Could never be us, man. Got by and bare 9mm. Fill it up for anybody that want beef us. They're talking the social media. But we done him already. Actually, ever speak up, bro. Hit him already. I made a pussy bleed up. But ready, me ready for have another steam up. Creep up when the man lean up. In the night time, no, we haven't put a beam on. Don't tell me that I'm hearing our knees up. Only got them, my mama, the ones telling me up. Hit him in his chest, hit him in his back door. Like, if we miss, then we never coming back. Know that. Tell him to our memory, tell him to our throwback. Cause him up, I'm beating out, can't hold that.
Salut, du coup on est donc je suis avec Théo et donc c'est un copain qui nous invite à discuter la semaine prochaine avec l'Envolée et avec Sylvia dans le cadre d'un week-end organisé par des prisonniers, et on voulait prendre un peu le temps pour parler un peu d'une vieille prison qui a eu lieu, enfin qui a été construite dans le Morvan à Autun, donc qui est une ville de 15 000 habitants, où la prison elle est plus en fonctionnement depuis une soixantaine d'années, mais il y a encore beaucoup d'histoires qui sont passées là-bas, qui sont en train de sortir, et donc questionner un peu ce truc-là, quoi, de l'enfermement il y a 100 ans en France à travers ce projet-là, quoi. Bref, et du coup, bah, peut-être pour commencer, on pourrait présenter un peu ce que c'est des prisonniers, parler de la date de la semaine prochaine, et après discuter un peu de ça, quoi.
Ok, ben merci en tout cas pour cet entretien. Nous, le collectif des prisonniers, il s'est monté il y a un an ou deux, justement parce que il y avait cette vieille prison dans le cœur de la ville d'Autun, dont certains ne connaissaient pas d'ailleurs vraiment l'existence, dont on ne connaît pas grand-chose, ni l'histoire, ni ce qui s'y est passé à l'intérieur. Et le musée local a décidé donc de l'intégrer à une nouvelle cité muséale, donc ça va rentrer dans un... ça va se muséifier complètement, et donc avant qu'on fige un peu l'histoire de cette prison, on s'est dit que c'était l'occasion de s'en réemparer, de partir des archives de la prison. Et donc c'est un travail qui est fait avec une association qui s'appelle la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, qui est au cœur du Morvan à Anneau, et qui travaille à partir d'outils de l'anthropologie, de l'éducation populaire, de l'ethnologie, sur justement comment se réemparer un peu de toutes ces questions et de penser aujourd'hui ce que c'est cette histoire, et notamment là, l'histoire carcérale locale, nous apprend, quoi. Du coup, voilà, c'est un projet qui a commencé, et donc on travaille beaucoup sur les archives de cette prison pour essayer, non pas d'en remonter l'histoire à strictement parler, mais d'essayer de faire remonter des archives les problèmes qui semblent s'y être joués, qui en fait étaient enfermés ici, et essayer de comprendre un petit peu plus. Donc elle a été construite au milieu du 19e siècle, et elle a duré à peu près une centaine d'années, et ça permet de voir à un moment où il y avait une multiplication de petites prisons et de maisons d'arrêt rattachées à des tribunaux correctionnels locaux qui en fait au cours des années, par les réformes des cartes judiciaires, se sont rassemblées de plus en plus et ont créé aussi donc des prisons de plus en plus grandes, quoi. Et donc il y a tout un tas de prisons comme ça qui ont été délaissées, et celle-là elle nous intéressait aussi parce qu'elle est étonnante du point de vue de son architecture, parce que c'est une des seules prisons qui a été faite sur le modèle du panoptisme, donc une prison panoptique, c'est-à-dire une prison complètement circulaire où toutes les cellules se font face dans un seul grand bâtiment. Là, il faut se rendre compte, hein, c'est un bâtiment dans lequel il y avait environ 48 cellules et qui fait 15 mètres de haut et 23 mètres de large, quoi. Donc c'est vraiment un gros bloc unitaire. Et le principe du panoptisme qui a été pensé par un philosophe un philosophe anglais en fait de la fin du XVIIIe siècle, Jeremy Bentham, qui avait une sorte de passion triste pour les prisons. Il était complètement hanté par la question carcérale, ralliée avec en même temps toutes les questions de la pénalité à la période révolutionnaire qui se redéfinissent un petit peu. Et du coup, il va penser cette espèce de modèle d'une prison moderne qui serait donc fondée sur cette circularité où tout le monde se voit en permanence, mais surtout où il y a un principe d'une tour centrale dans cette prison qui organise la surveillance d'une certaine manière, c'est-à-dire que aucun des prisonniers ne peut voir le surveillant qui est à l'intérieur de cette tour centrale, mais lui, depuis ce point central, le surveillant est en capacité de voir chacun des prisonniers. Et donc c'est vraiment, il y a une sorte de retournement qui se joue à ce moment-là, parce que c'est plus vraiment le face-à-face entre le surveillant et le prisonnier qui se joue, mais c'est l'architecture elle-même en fait qui devient l'outil opérant de surveillance et qui crée le sentiment d'être surveillé en permanence. Et donc c'est aussi, ça va être à ce moment-là une manière d'individualiser, en tout cas dans la manière dont c'est pensé, quoi, d'individualiser les peines des prisonniers.
Ouais, en gros, c'est une expérimentation de l'administration pénitentiaire à l'époque qui a pas fonctionné, mais parce qu'il y avait aussi la volonté d'en faire. C'est tout le moment où se joue la question du travail aussi beaucoup en tôle. Et du coup, c'est pas une prison qui correspond vraiment parfaitement à la volonté de faire travailler les prisonniers ou les prisonnières en atelier, quoi. Mais c'est quand même une tentative de voir comment on peut contrôler le mieux possible des prisonniers qui sont là pour des courtes peines et avec le moins de matons ou de matonnes possible, quoi. Donc là, si je dis pas de conneries, c'est deux matons, donc un maton et sa femme, ou enfin l'inverse, quoi, qui gèrent la prison. Et donc en fait, ça veut dire deux personnes qui enferment jusqu'à 80 prisonniers, prisonnières, quoi. Et donc ça implique beaucoup quand même dans le rapport de force, et ça c'est quand même beaucoup lié à cette architecture-là dont tu parlais. Il y a quand même eu des reprises un peu à la santé, par exemple. Il y a la manière dont sont réfléchis les bâtiments. Les bâtiments, ils sont visibles depuis une tour, quoi. Du coup, il y a aussi quand même ce truc-là, un peu de panoptisme qui est resté, mais pas totalement, quoi. Genre, ça, c'est un peu propre à cette tôle, quoi, j'ai l'impression. Et moi, ça me faisait tiquer sur autre chose aussi, c'est tout ce truc de patrimoine sur les tôles, où l'administration pénitentiaire et l'État en général essayent de rendre la tôle plus... je sais pas comment dire, quoi, il y a une vraie propagande pro-prison qui joue à ce moment-là. C'était le cas, par exemple, à la santé, au moment des travaux. Il y avait la possibilité de venir visiter, d'aller checker là où il y avait les exécutions. Enfin, des trucs vraiment hyper glauques, mais en fait, eux, ils essayent de le vendre en positif pour donner une image d'histoire. Enfin, comme si, en fait, l'administration pénitentiaire, elle s'inscrivait historiquement, genre, dans l'histoire de la France, et donc elle était inéluctable, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, il y a tout ce truc-là, et en même temps, de la rendre en positif, quoi. Et ça, c'est quand même un gros mouvement qui est en cours, et je crois qu'il y a d'autres tôles qui vont être concernées dans le Sud par ça. Et du coup, c'est intéressant aussi, en fait, qu'il y ait des gens qui s'en emparent autrement, pour faire vivre un peu aussi, parce que là, ce qu'on a pas dit, du coup, c'est qu'il y a des week-ends qui sont organisés par des prisonniers, avec à chaque fois un thème différent, mais il y a aussi l'idée de faire répondre ce qui se passait dans la tôle, ou comment la tôle était un lieu de gestion de population à ce moment-là, à maintenant, quoi, aujourd'hui, parce que il y a des trucs qui s'inscrivent dans le temps long, quoi.
Effectivement, la question de la patrimonialisation, c'est un truc hyper compliqué, hein, parce que en fait, c'est fixer une mémoire, c'est ce que tu dis, quoi. C'est aussi une couche de légitimation, quoi. Tu vois, on rend ça d'une évidence telle que maintenant, on peut même en conserver la mémoire et la détourner pour en faire un lieu d'art ou de choses comme ça. Et
ça veut dire aussi que l'administration pénitentiaire, elle a pas honte, en fait, et que normalement, les tôles, c'est quand même plutôt un lieu de honte pour l'État. Parce que d'ailleurs, il est régulièrement condamné parce que les conditions d'enfermement, elles sont inhumaines en France. Et en fait, c'est aussi essayer de rendre ça en positif, un truc qui est dégueulasse et dont normalement l'État a honte.
Mais ce qui est intéressant avec ce truc, c'est que ce qui se confronte, en fait, c'est le 19e, c'est tout un moment où les mecs pensent la question de la pénalité, il y a tout un tas de théories qui vont être montées, on va se rendre vraiment scientifique l'emprisonnement, et en tout cas on va essayer de le rationaliser au maximum, et ce qu'on voit, c'est que à l'épreuve des faits, l'enfermement, c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que produit la privation de liberté, quelle que soit la manière dont on le légitime, ou on le construise, ou on l'élabore par des architectures, tout ça, finalement, on peut tirer une histoire qui est malheureusement très linéaire, qui est celle d'une condition carcérale qui est jamais raccord avec, de toute façon, les projets qui sont menés, quels qu'ils soient. Et puis, parce qu'en fait, c'est toujours des projets qui réduisent l'individu, le prisonnier, d'une part, à une espèce d'unité individuelle qui doit être ménagée, transformée. C'est des formes d'ingénierie sociale qui sont vachement... qui sont hyper productrices de violence, quoi. Et ce qui est intéressant, quand on remonte justement pas seulement l'histoire de l'architecture qui nous ferait dire que surveillance totale, tout ça, mais qu'on va chercher dans les archives, on se rend compte qu'en fait, le modèle panoptique, de très vite, il peut, comment dire, il peut jouer dans le rapport de force que peuvent construire les prisonniers entre eux. Et ce qui est étonnant, parce qu'on va retrouver par exemple un rapport dans une enquête pénitentiaire par rapport à des échanges, enfin des correspondances entre deux prisonniers, du coup, qui ont été retrouvés, il y a une enquête qui est menée, et le type dit, parce que la prisonnière qui est concernée chantait toute la journée et toutes les soirées des poèmes qu'elle écrivait elle-même, on est en 1874, et des poèmes révolutionnaires, républicains, quoi. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est que le fait que ce soit un bâtiment circulaire, presque une espèce dans des grandes hauteurs, presque en petite cathédrale comme ça, c'est très ecclésiastique, ce bâtiment d'ailleurs. Ça fait que tout s'entendait en permanence. Et en fait, ce qui fait que là où on veut créer l'isolement des prisonniers, D'un coup, la voix, ça va pouvoir être un outil d'échange, de résistance, et en fait, et où qu'on soit dans cette prison, on ne peut pas ne pas être entendu. Et ça, du coup, c'est pour le coup, c'est un bon pied de nez au projet justement de ces architectures qui sont fondées sur l'encellulement, quoi. Et alors, c'est ce que tu disais, en fait, la mise au travail des prisonniers, qui est arrivée un petit peu plus tard dans les circulaires, en fait, elle est un peu à contre-courant, cette prison, parce qu'elle va être faite sur le modèle d'une circulaire de 1840, la circulaire du Châtel, qui préconise ces conceptions panoptiques. En fait, le temps qu'elle soit mise en place, on a plutôt changé de politique, et les gens disent non, il faut des ateliers de travail collectif, parce qu'en fait, ça peut pas être dans les cellules que ça se passe, et donc la mise au travail va gagner sur l'encellulement. Et donc de plus en plus, les prisonniers vont pas passer 24 heures sur 24 dans les cellules, mais en journée, peuvent faire d'autres activités dans la prison.
Et ça fait grave écho en fait à ce qui se passe en ce moment, parce que sous Macron et Dupond-Moretti, il y a tout ce truc-là en fait de redire il faut que les prisonniers travaillent, donc se fassent exploiter, parce que ils promettent l'application du code du travail, mais pour le moment, c'est pas le cas. Et donc ça veut dire que les gens, quand ils travaillent, ils cotisent pour rien. S'ils sont malades, ils sont pas payés, qu'il y a du travail à la pièce, enfin bref, des conditions qui sont d'exploitation, quoi. Et il y a aussi la volonté là dans leur plan prison là, dont ils sont en train de financer, de créer des start-up prisons, qui sont des prisons où les entreprises privées auraient beaucoup plus d'accès, et du coup il y aurait beaucoup plus cette notion de travail. Et tout le discours là du Dupond-Moretti hyper paternaliste sur le délire de il faut remettre les prisonniers au travail, et ça va être comme ça qu'on va pouvoir prouver leur sortie ou pas, en fait ça fait grave écho à déjà ce modèle là en fait qui est au 19e siècle, qui est en train d'essayer de se fixer, quoi. C'est voilà. Et il y a un autre truc, moi, que je trouvais assez vénère en fait quand tu regardes l'histoire d'une prison sur un temps long, c'est aussi le fait que quel que soit le régime, genre que tu passes de la monarchie à une république, voire à une zone occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., il y a une continuité de l'administration pénitentiaire. Et en fait, ça montre bien que quel que soit le régime, de toute façon, c'est un régime de dominant vers les dominés, et que la tôle, elle a une vraie fonction de contrôle des dominés, quoi. Et que c'est pas du tout une question de... c'est pas du tout une question de morale, quoi. Enfin, parce que la morale change, mais en fait, dans tous les cas, on enferme, quoi. Et il y a une vraie continuité qui montre bien, quoi, tout ce rôle-là, quoi, et qui est hyper visible à cet endroit.
Bah ouais, non, je suis complètement d'accord. Et c'est justement, c'est un peu, tu vois, ces différents niveaux, justement, et les continuités où ça se joue, qu'on a essayé de penser dans l'organisation de ces week-ends, tu vois, de faire, en gros, de voir quel type de problème il s'agit. Et donc, on a commencé par un week-end sur comment cette tôle, elle a été utilisée pour réprimer la contestation sociale et ouvrière dans les bassins miniers et industriels du coin, où il y a eu des épisodes révolutionnaires au 19e siècle. Essayer de comprendre aussi, puisque c'était une prison où il y avait des hommes et des femmes, et puisque c'était qu'une seule unité cellulaire, ce qui fait qu'il y avait... même s'ils se croisaient le moins possible, en fait c'était très contrôlé, en même temps il y avait ce face-à-face permanent entre les hommes et les femmes, et donc comprendre aussi quelles femmes étaient ici et pour quelles raisons, ce qui amène à tout un tas de questions de répression aussi par rapport à des illégalismes qui sont propres aux femmes, comme les faits de prostitution, d'avortement, enfin voilà, ces éléments-là qu'on retrouve dans l'histoire de cette prison. Comprendre aussi... comment ça traverse l'histoire de l'immigration, et en fait de retrouver comment à l'intérieur de la prison se refabriquent des figures de l'étranger, avec dans cette prison d'Autun des immigrations différentes comme les immigrations italiennes ou algériennes d'après la Première Guerre mondiale, chinoises, qui vont aussi se croiser. On a des traces notamment, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur comment est-ce qu'on essaie de faire travailler les gens. Et alors la question c'est de toute façon de l'exploitation. Mais la question c'est, est-ce que c'est l'exploitation dont l'administration tire un vrai bénéfice, ou en fait est-ce qu'on t'éduque à l'exploitation? Parce que au final, ce qu'on voit dans ces petites prisons, c'est que le modèle, c'est des petits modèles artisanaux. Là par exemple, ils faisaient des parapluies et des sabots. Ça va évidemment rapporter un peu de thunes à l'administration pénitentiaire, quasi rien, ou des pécules pour la cantine pour le prisonnier. Et en fait, ça va effectivement produire un peu d'argent, mais ce qui se joue, j'ai l'impression, c'est vraiment l'éducation au travail. C'est-à-dire, c'est vraiment discipliner les gens pour qu'ils se remettent dans l'activité productive, quoi.
C'est le cas aussi sur la gestion de l'enfermement des étrangers, quoi. Comme aujourd'hui, il existe les centres de rétention, les zones d'attente à l'aéroport, certains centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les tôles, les hôpitaux psychiatriques, enfin bref, toutes les assignations à résidence et tout. En fait, il y a tout un tas de manières d'enfermer les étrangers aujourd'hui et de faire de la gestion de population. C'est exactement la même chose, j'ai l'impression, qui joue à cette époque, parce que quand on en discutait là avant avant de faire cet enregistrement, il y avait, on parlait du fait que bon, bah, dans la tôle, ça se voit, ces mouvements d'arrivée de personnes et la répression qu'il peut y avoir parce qu'ils sont étrangers et donc plus visés par tous les délits, quoi. Et en même temps, il y a, dans cette zone-là, il y a aussi la création de camps, par exemple, de camps pour les gens dits du voyage pendant la Seconde Guerre mondiale, qui en fait est genre plus large que la Seconde Guerre mondiale parce que c'est décidé par le gouvernement français avant la guerre et ça se prolonge jusqu'en 1946. Et donc ça c'est... Enfin en fait ça s'inscrit dans tout un tas de lieux d'enfermement. Il doit y avoir aussi, je pense, des lieux d'enfermement pour mineurs dans la zone à l'époque, quoi. Et c'est toujours la même chose, comment ces administrations aussi elles se répondent. Et ben, c'est un savoir qui est pareil en fait à maintenant presque 150 ans, quoi. Enfin, c'est le moment de plein de tests de comment on va enfermer par exemple les étrangers. Est-ce que c'est pour une période courte qui vise une population en spécifique et du coup là tu vas ouvrir des camps d'internement particuliers, ou est-ce qu'on est dans une période comme maintenant où en fait tu vas enfermer tout un tas de types d'étrangers différents et donc tu crées un truc qui balaye toutes les catégories comme les prisons pour sans-papiers. Enfin tu vois, je trouve que c'est... Enfin ça se voit aussi, quoi, à ce moment-là.
Ben, complètement, et en fait en remontant les registres d'écrous sans fin de la prison, ce qui remonte de manière complètement évidente, c'est qu'il s'agit vraiment de gestion de population, quoi. C'est-à-dire qu'on va voir tout un tas de types de délits propres à des époques, par exemple, bah, tu parlais de ça, le vagabondage d'une part, si on n'était pas rattaché à une commune ou à un centre de travail, en fait, on pouvait être enfermé parfois plusieurs mois juste pour ça. Donc il y avait le vagabondage, mais il y avait aussi après tout le contrôle des gens du voyage, de ce qu'on a appelé administrativement les gens du voyage, qui eux effectivement étaient soumis au carnet anthropométrique, et c'était une manière de contrôler complètement les populations nomades, et donc l'emprisonnement permettait de fixer ça. Et puis ce qu'on voit, c'est que vraiment 80% des gens qui sont là, ils vont être là soit pour fait de vagabondage, soit pour fait de mendicité, soit pour justement défaut de carnet anthropométrique, soit pour des vols qui eux-mêmes à 75% ou 80% sont des vols de nécessité. On va retrouver quantité de formes de glanage en fait contemporain, de vols de poissons dans un étang, de chasse au mauvais endroit. Alors, en fait voilà, c'est toutes les petites résistances à un ordre établi inégalitaire qui sont aussi réprimées par là, quoi. Et on voit clairement se dessiner dans ces petites maisons d'arrêt un outil de répression politique, enfin, un outil vraiment de gestion des inégalités sociales, quoi, et de...
Un peu les contacts pour voir un peu le travail qui est fait sur Internet, tout ça.
Bah alors du coup, ouais, le week-end prochain, on va travailler du coup sur cette question du contrôle du corps des femmes dans l'histoire de ce qu'il en ressort de l'histoire de cette prison et de ses archives, et de comprendre ces mécanismes de contrôle des corps féminins à la fois dans la prison et en dehors, quoi. Et donc reparler de l'histoire au niveau local aussi de la répression de l'avortement. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est des discussions tout au long de l'après-midi en invitant différents intervenants. Donc il y a Sylvia de l'Envolée qui nous a fait vraiment, ça nous fait super plaisir qu'elle vienne pour parler de tout ça, et une femme polonaise va venir parler de toutes les luttes qu'il y a pu y avoir sur les nouvelles formes de criminalisation de l'avortement en Pologne. Il y a eu des luttes un peu victorieuses, il y en a quelques-unes heureusement, d'un mouvement de femmes complètement énorme, et parler aussi de toute la question du féminisme anticarcéral que quelqu'un viendra présenter. C'est un peu dans l'optique d'éducation populaire, quoi. Ça se veut des ateliers très ouverts, donc viendra un peu expliquer qu'est-ce qui se pense aujourd'hui à partir de ces outils du féminisme anticarcéral. Et voilà, et travailler aussi sur, on va présenter les travaux de collégiennes qui ont fait une chorégraphie sur l'histoire de cette prison en parallèle du projet qu'on menait, et qu'on va présenter leur film, et pour qu'elles puissent venir parler aussi du fait d'avoir dansé sur les dalles de cette prison.
Donc voilà, on vient d'écouter un enregistrement avec Théo, donc qui fait partie d'un collectif qui essaye de se battre pour parler de l'histoire des prisons dans le Morvan et de connecter ça au présent et aux luttes actuelles, que ce soit en prison ou dehors, contre l'enfermement. Et donc voilà, juste pour finir, avant de finir l'émission, on voulait vous rappeler les deux rendez-vous importants de demain. C'est d'abord 12h30 à la Parole Errante au métro Croix de Chavaux, donc pour celles et ceux qui sont dehors et en région parisienne. C'est en soutien à la famille de Lamine Dieng. C'est une journée contre les violences policières et contre les violences d'État. Donc voilà, vous avez pu écouter Fatou pendant l'émission. Et l'autre truc important, c'est la manifestation à partir de 15h au Ménilamlo. Et donc le rendez-vous, c'est au RER Charles de Gaulle, sortie terminale 1, gare routière. Et donc pour rappel, c'est pour lutter contre la construction d'un nouveau centre de rétention. Sachant que voilà, enfin donc c'est déjà la plus grosse prison pour sans-papiers d'Île-de-France. On en a déjà parlé pendant l'émission. Et donc voilà. Et juste avant de finir l'émission, on voulait passer beaucoup de force aux prisonniers de Wassel qui sont en lutte depuis une semaine contre les violences policières et les conditions d'enfermement dans le centre de rétention et qui appellent à un maximum de solidarité. On espère qu'on pourra un peu plus en parler la semaine prochaine, quoi. Et donc voilà, avant de finir l'émission, on va vous rappeler notre numéro, c'est le 07 52 40 22 48. Et pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité 75 019, l'envolée-FPP. Faut pas hésiter, quand vous avez un proche à l'intérieur, à nous envoyer le numéro d'écrou, son nom, et l'abonnement, il est gratuit pour les prisonniers, parce que l'envolée, c'est à la fois une radio et un journal. Donc voilà, donc pour nous réécouter, c'est mercredi matin, 8h30. Et voilà, bah, bonne semaine, enfin, la meilleure semaine possible à tous et toutes, plein de force, et il n'y a pas d'arrangement.
What a shame. I know if I blew my first album, I'd never change. Just a bunch of young niggas running around here insane. I would've blown all of that money, diamonds arranged. Also, you can know I'm on fire, high as a flame. And oh, you know your boy, he no lie, he is the same. Without invites, I opened that door and they all came. Now we partying 3 or 4 in the morning. Baby say she pregnant in the door, but she going. Her friends, they came with her, they brought their weed and they blowing. Imagine if I tell you these hoes, they on a show and on TV and not to name names, that shit wouldn't be me, but if we gon' keep it real on the GP, two hoes come and see me, that's a 3-3. Hit that shit like Curry from the 3G, living life fast and it repeat. One was licking cat, I was knee deep. I ain't been at home in like 3 weeks.
And I changed, I say I changed, I know I changed. I changed, I know I changed, I said I changed, I know.
They up at shooting dice, right? Motherfucker, the whole camp come up there. Ain't no security downstairs. Ain't nobody at the bottom of the building. We like on the 10th floor or some shit. Motherfuckers shooting dice up there. But we was all the way at the top. Everybody had guns on up there. That was a cat talking about, go get that thing, Lur. The fuck I'm gonna get these, all these niggas, there's 20 niggas up here with guns on them.
What they was up there for though, Larry?
This bullshit and Biggie talking shit, talking about Larry, you shot at me, man, Burton and your boy did that shit.